Le virus est encore là. Aïe, aïe, aïe. Il continue à bousculer nos plannings. Plusieurs variants nous ont embêtés. Il y en a eu tellement. Plusieurs variants avec des noms assez particuliers. Jusqu'à qu'on nous dise quoi ? Oh, celui où il y a les deux, là. Vous vous rappelez ? Hein ? Deltacron, quoi. Vraiment. Les variants nous ont embêtés. Des classes s'arrêtent parce qu'un cas positif est positif. Les enfants doivent se faire tester. Ils doivent revenir en classe avec une attestation. Dans ces moments-là, les parents qui doivent aller au travail sont obligés de trouver une solution pour que les enfants soient gardés. Et puis, il y a des grèves. Et dans les lieux de travail, plusieurs collègues ne sont pas là. Cas positif. Certaines entreprises ont souffert d'absences répétées. Et puis, les protocoles changent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Certains s'y collent, d'autres se rebellent. Et puis, il y a encore des personnes qui ont le Covid long et qui ont des difficultés à reprendre leur travail. Normalement, les vaccinés sont vus comme de bonnes personnes, des personnes normales. Et puis, les non-vaccinés sont vus comme des personnes à placer dans un rang inférieur aux autres. Hein. Ce sont comme des citoyens de deuxième rang. Et bientôt, 2 ans de pandémie, les amis, qui ont amené beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de peur, de confusion, de colère, d'agressivité, de frustration, même de dépression et de violence. Oh, un petit virus qui fait tout ça ? Le virus a vraiment compliqué notre quotidien et la lassitude est bien présente aujourd'hui. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce que nous nous laissons aller comme plusieurs à des attitudes négatives et néfastes ? Ou est-ce que nous avons gardé ou adopté de bonnes attitudes ? Dans notre quotidien, malgré la situation. Comme vous voyez, le thème du message de ce matin, c'est le chrétien face au virus. Je vais répondre à cette question. Quelles attitudes doit avoir le chrétien face au virus ? Je ne serai pas, bien sûr, exhaustif. J'aurai beaucoup de choses à dire, mais je donnerai ce qui me semble le plus important. Premièrement, première réponse, ne pas se nourrir des problèmes, mais se nourrir de la parole de Dieu. De quoi est-ce qu'on se nourrit ? Qu'est-ce que nous regardons et lisons le plus ? Une personne m'a confessé passer beaucoup trop de temps devant les informations sur son écran parce qu'elle voulait absolument savoir où nous en sommes avec le virus. Et donc, plusieurs fois dans la journée, il n'y a rien de mauvais à écouter l'actualité pour s'informer. Mais quand cela prend trop de place dans notre quotidien, ça devient ce qui nous nourrit, ce qui prend le plus de place dans nos pensées et dans ce que nous disons au quotidien. Quelqu'un me disait qu'elle ne peut plus laisser ses enfants devant les informations parce qu'il y a tellement de choses négatives, tellement de choses anxiogènes et parfois trop violentes pour eux. Cette personne a raison, mais je dirais aussi que nous devons nous aussi, jeunes, adultes, nous protéger. En plus de tout cela, ces informations qui peuvent être anxiogènes, il y a aussi toutes les fake news sur le virus, le vaccin, etc. Cela a amené encore plus de personnes à rester collées aux réseaux sociaux, sans prendre de distance. Et la Bible, Dieu l'a déjà un peu dit, même beaucoup dit dans la Bible, il y a des fois où vous voyez où ça montre que l'être humain est très attiré par le nouveau. Hein, parce qu'il est, on nous cache une vérité, encore une autre là-bas. Il y a encore quelque chose en dessous. Oui, le tapis est beau, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous ? On veut savoir. Et cette curiosité, il y en a qui en profitent, n'est-ce pas ? Et tellement de gens se laissent aller, croient à des mensonges. Un chrétien âgé et sage, très sage, a dit lors d'une réunion avec mon épouse, « Nous avons eu tendance à regarder l'actualité à longueur de journée. Maintenant, j'ai pris la décision de plus lire ma Bible. Elle m'aide à prendre du recul, à voir ce qui se passe sous l'angle de Dieu et à avoir la paix. » Je crois que plus une situation est difficile, plus on doit passer de temps dans la parole de Dieu. Wow! Je crois que cette personne a bien raison. Nous pouvons écouter des débats autour du virus, nous informer, regarder ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, pas de problème. Mais ces choses ne doivent pas nous envahir au-delà du raisonnable. Le danger, quand nous mettons toute notre énergie à quelque chose, c'est que nous n'avons plus ou peu, trop peu d'énergie pour ce qui est essentiel. Selon la parole de Dieu, voici ce qui doit habiter nos pensées, jour et nuit, et nous façonner. La Bible dit dans le psaume 1, versets 1 et 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. » Dans ce texte, Dieu nous invite à choisir la voie du bonheur absolu. Non en écoutant et en suivant les conseils des méchants, mais plutôt les conseils de Dieu. Ces conseils sont dans la Bible, sa parole. Dieu nous invite à prendre plaisir dans la lecture et la méditation de la Bible, à chaque fois que nous en avons l'occasion, le matin, l'après-midi et ou le soir. Nous, chrétiens, passons autant de temps que possible à méditer la parole de Dieu, afin qu'elle nous façonne. C'est elle qui doit avoir la première place dans notre vie, qui doit nourrir nos pensées et façonner notre quotidien. Rien d'autre ne doit avoir cette place-là. Rien. Ne nourrissons pas nos pensées de tout ce qui concerne le virus, les vaccins, etc. Que notre vie ne soit pas centrée sur le virus et tous les débats et problèmes que cela génère, mais que notre vie soit centrée sur Dieu, sur sa parole vivante, encourageante et vivifiante. Quand c'est la parole de Dieu qui nourrit quotidiennement nos pensées, elle nous aide à être plus centrés sur Dieu. Elle nous aide à être plus connectés à sa volonté. Elle nous aide aussi à être plus sages dans nos réflexions et dans nos décisions. Donnons la première place à la parole de Dieu. Deuxièmement, quelle attitude doit avoir le chrétien face au virus? Ne pas laisser les différentes opinions nous diviser, mais protéger nos relations, et en particulier l'unité de l'Église. Les débats actuels divisent notre société. Il y a les pro-vaccins et il y a aussi de l'autre côté les anti-vaccins. Et puis maintenant on a trouvé le langage un peu plus stylé, les pro-vax, les anti-vax. Cette division touche les couples, les familles, les relations au travail, même nos amitiés. Quelqu'un me disait que les relations avec les membres de sa famille sont devenues tendues. Ils ne sont pas d'accord au sujet du vaccin, ok, il n'y a pas de problème, mais cela affecte sérieusement leurs relations. Malheureusement, les églises ne sont pas épargnées. Vous avez peut-être entendu certaines églises se diviser clairement sur ces questions, au point que ça divisait l'église, et donc des gens partaient de l'église parce que « Ah, c'est quoi cette histoire? Je ne suis pas d'accord, je m'en vais. » Un virus qui amène tout ça? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont obsédées par les recherches anti-vaccins. Ils envoient chaque jour des vidéos, des liens à tous leurs amis sur le sujet. Cela occupe tout leur temps, toute leur énergie, toute leur pensée. Mais ce n'est pas le rôle du chrétien, les amis. Les débats pour ou contre le vaccin ne doivent pas devenir une obsession. Alors, quelle attitude devrions-nous avoir, nous chrétiens, dans nos relations? Tout faire, je l'ai dit, pour protéger ces relations. Tout faire pour protéger aussi l'unité de l'Église. Plusieurs chrétiens que je connais m'ont dit avoir prié pour savoir s'ils devaient se faire vacciner ou non. J'en ai eu au téléphone, Manu, je prends la décision de me faire vacciner. Et on a prié avec la famille. Avant d'aller se faire vacciner, la personne est comme baignée de prière. Hein? Ils ont prié et ils ont eu cette conviction. Selon eux, c'est ce qui leur paraît le plus juste. Mais saviez-vous que d'autres ont prié et ont eu la conviction inverse? Yeah. Vous entendez que chacun fait en fonction de ce qu'il lui semble le mieux. avec ses propres convictions. Quand les chrétiens sont face à une question qui concerne des opinions différentes et sur laquelle la Bible ne se prononce pas directement, on n'entend pas dans la Bible « tu dois te faire vacciner » ou « tu ne dois pas te faire vacciner ». Enfin, si vous trouvez ce texte, il faut me le dire. Mais non, il n'existe pas celui-là. Donc, quand il n'y a pas de texte qui nous aide dans... quand on a des opinions différentes pour savoir mais quel texte pourrait nous aider dans ce sens-là, sur laquelle la Bible donc ne se prononce pas directement, nous devons chercher des textes bibliques qui pourraient nous aider à au moins donner un cadre. Il me semble que le texte de Romains, chapitre 14, verset 1, peut nous aider. Même si ce texte ne parle pas directement de virus. Dedans, on parle de viande sacrifiée aux idoles, et puis par rapport au jour du sabbat, etc. Et donc d'une différence d'opinion entre chrétiens, juifs et non-juifs autour des exigences rituelles héritées du judaïsme. Mais ce texte peut quand même nous aider. Paul dit aux chrétiens ceci. « Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. » Dans le contexte, les juifs et non-juifs devaient apprendre à vivre ensemble malgré leurs différences et les éléments culturels et historiques qui les séparaient. Imaginez, les juifs voyaient les non-juifs déjà comme impurs. Maintenant, ils doivent les voir comme des frères et sœurs. Ils doivent partager des choses ensemble. Et partager le repas ensemble ne devait pas être facile, vu que il y avait des viandes impures et pour les uns, ben, c'est bon, on peut les manger. Pour les autres, ben non. Alors, vous imaginez, hein, on est en plein repas d'église et il y en a qui sont totalement contre et les autres sont pour. Alors, une bonne viande qui arrive et puis voilà, on sent la bonne odeur. Mais en même temps, il y en a qui sont là et comme choqués. Comment faire pour vivre une communion ensemble ? Vivre quelque chose de beau ensemble quand il y a ça. Donc, pas simple. Entre ces deux peuples, les obstacles à l'unité étaient nombreux. Et les situations paraissaient impossibles à démêler. Mais en Jésus-Christ, toutes les barrières tombent. Là, on dit un grand amen, là. Toutes les barrières tombent. Amen. Les chrétiens, quelle que soit leur culture, leur histoire, leur opinion et leurs différences, doivent s'accueillir les uns les autres. À propos de cet accueil, voici une partie du commentaire de Brad Dixon sur ce texte de Romains 14, verset 1. Je cite, « L'accueil ne cherche pas à changer l'autre. » Intéressant, hein ? « L'accueil consiste à accepter l'autre tel qu'il est. » Paul laisse donc de la place pour des opinions différentes dans l'Église. L'unité n'est pas basée sur l'uniformité et l'unité n'exige pas l'uniformité. Tu ne dois pas être comme moi et penser totalement comme moi. Suite, une autre partie du commentaire dit ceci, « Il est bon et important d'avoir des convictions personnelles, mais nous devons laisser à nos frères le droit d'en avoir également, même si elles diffèrent des nôtres. » Fin de citation. Mes amis, on ne peut pas être d'accord sur tout dans l'Église. Je vous apprends quelque chose ? Il est normal qu'il y ait des divergences d'opinion entre chrétiens. Et malheureusement, nous ne savons pas toujours comment les gérer. Et Satan, lui, il en profite, il se frotte les mains pour nous attaquer et pour nous diviser. Il ne divise pas que l'Église, il nous divise dans nos relations, en famille, etc. Dans ce temps particulier, Dieu nous appelle, nous chrétiens, à protéger nos relations, à protéger l'unité de l'Église locale. Dieu nous appelle à nous accueillir les uns les autres, sans mépris ni jugement. Au lieu d'imposer notre opinion aux autres, nous devrions accepter qu'ils puissent penser différemment. Une citation qui me paraît juste est celle-ci. Dans les choses essentielles, unité. Dans les choses non essentielles, liberté. En toutes choses, charité. Alors, ce qui fait notre unité dans l'Église, ce sont les choses essentielles. Maintenant, de quoi on parle ? Les vérités objectives de la Bible. La Bible, déjà, est pour nous parole de Dieu. Il faut qu'on soit d'accord avec cela. Sinon, comment on peut vivre l'unité ? Pour nous, Dieu existe. Il est Dieu, il dirige l'univers, l'homme est pécheur, l'homme est perdu, l'homme ne peut être sauvé que par Jésus. Jésus est mort pour nos péchés, Jésus est ressuscité, et ainsi de suite. Toutes ces vérités qui sont fondamentales font notre unité. Pour les choses non essentielles, qui peuvent avoir leur importance pour nous, liberté. La liberté. Notre opinion sur les vaccins n'est pas une chose essentielle de notre foi. Nous ne perdrons pas notre salut parce que nous avons dit oui ou non au vaccin. Donc, nous ne devrions pas laisser cette question envenimer nos relations et nous diviser entre chrétiens. L'unité est encore possible. Si dans l'Église, nous avons des opinions différentes sur des sujets non essentiels, respectons-nous, recherchons l'amour et la paix. Cela peut demander parfois de faire de gros efforts. On discute, mais on n'est pas d'accord. Et moi, ça m'arrive me sentir instable, enfin, pas bien dans mes émotions. Mais je dois apprendre à accepter que l'autre en face de moi a le droit d'avoir ses points de vue. Mais c'est vrai, quand ça chauffe, hein, c'est dur. Hein. Donc, faisons l'effort pour nous calmer et pouvoir continuer à discuter des choses qui sont différentes de nous. En agissant ainsi, nous préservons l'unité. Troisièmement, quelle attitude doit avoir le chrétien face au virus ? Ne pas se laisser submerger par la peur et la colère, mais faire confiance à Dieu. Il est important de dire qu'il est normal pour un chrétien et pour tout être humain d'avoir des colères, des peurs, des doutes, d'être dans la confusion. Il est normal d'être troublé aujourd'hui par les nombreuses informations contradictoires qui ne cessent de circuler. Mais comment faire pour ne pas se laisser submerger par la peur et la colère ? Concernant nos soucis, l'apôtre Paul a donné un texte que beaucoup de chrétiens apprécient, Philippiens chapitre 4, verset 6. Plusieurs le connaissent peut-être par cœur. Nous, ne vous mettez pas en souci pour rien. Ne vous mettez en souci pour rien plutôt. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Nous devons donner à Dieu nos soucis. Nous devons donner à Dieu nos émotions, nos blessures, nos colères, nos peurs. Mais pour pouvoir les donner, il faut reconnaître que nous avons cela. Et une chrétienne qui combat avec la peur m'a dit il y a quelques jours que Dieu lui a montré qu'elle ne doit pas refouler sa peur, la rejeter, mais l'accueillir, accepter qu'elle soit là, cette peur, et apprendre ensuite à la gérer. C'est tellement vrai. Ça n'arrange rien de refouler nos peurs et nos colères, de ne pas les reconnaître. Nous devons avant tout reconnaître que ces émotions sont présentes. Nous devons accepter que ce que nous traversons avec le virus nous épuise, nous embête, nous agace. Ça nous touche d'une manière ou d'une autre. Puis nous devons abandonner toutes ces choses à Dieu. Disons à Dieu dans la prière, « Viens au secours de ma colère. Mon Dieu, viens au secours de ma peur. Aide-moi à te faire confiance. » La confiance vient quand nous reconnaissons notre besoin de Dieu, mais aussi quand nous nous tournons vers lui. Nous avons trop tendance à regarder les problèmes plutôt qu'à regarder à Dieu qui est tout-puissant, qui est souverain. La Bible nous invite à regarder à Dieu. Faisons l'effort de regarder à Dieu, de le contempler, de nous rappeler sa grandeur, sa toute-puissance et son amour. Mes amis, ce rappel est indispensable pour avoir une vision juste de Dieu, mais aussi une vision juste des problèmes que nous traversons. Regarder les problèmes et leur donner plus de poids qu'à Dieu nous amènera à dire à Dieu que nous avons de grands problèmes. Mais regarder à Dieu, fixer nos regards sur ce Dieu qui est grand, puissant, nous poussera à dire à nos problèmes que nous avons un grand. Amen. Gardons une vision juste de Dieu et des problèmes. Le virus et tout ce qui tourne autour de cette pandémie ne sont rien devant le grand Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, le Souverain, lui qui n'est pas dépassé par les circonstances et lui qui maîtrise toutes choses. Quatrièmement, quelle attitude doit avoir le chrétien face au virus ? Ne pas laisser la situation me rendre passif, mais être toujours zélé pour l'annonce de l'Évangile. Nous chrétiens, nous ne devons pas mettre tout notre temps, toutes nos pensées, toute notre énergie dans les débats qui sont actuels. Nous ne devons pas nous tromper de combat. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. Donc dans 1 Timothée 6, verset 12. Mes amis, Dieu nous appelle à combattre le bon combat et non le mauvais. Depuis le début de la pandémie, l'ennemi était tout et n'importe quoi, n'est-ce pas ? Pour plusieurs, l'ennemi qui était au début le virus est devenu les Chinois, puis le vaccin, puis les chrétiens de Mulhouse, puis les autorités, puis les non-vaccinés. Enfin, il y a toujours des ennemis, et je pense qu'il y en a d'autres. On en trouve toujours un autre. Mes amis, ne nous trompons pas d'ennemis. Si on se trompe d'ennemis, on se trompe de combat. Le véritable ennemi, ce ne sont pas toutes ces personnes. Écoutez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre qui ? Contre des puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Attention, quand ça dit autorité, ça ne parle pas du gouvernement, là. On parle ici, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, d'accord ? Ne nous trompons pas de combat, les amis. Satan attaque, donc combattons le bon combat. Ne soyons pas comme des victimes qui cherchent un bouc émissaire à chaque coin de rue, en faisant tout ce qui bouge, enfin, de tout ce qui bouge et ne bouge pas un ennemi. Notre ennemi, ce sont les puissances démoniaques qui ne cessent d'attaquer, d'éloigner le monde de Dieu et de sa grâce. Satan attaque aussi les enfants de Dieu pour affaiblir leur zèle pour l'annonce de l'Évangile. Le savoir doit nous pousser donc à prier, et aussi à prier pour que Dieu nous délivre du mal, pour que Dieu touche notre pays, afin que plusieurs passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière de Dieu. J'ai mentionné l'ennemi dans notre combat, donc les puissances démoniaques, mais il y a aussi un autre problème plus profond. Le cœur du problème de notre société est toujours le même. Le plus gros problème de notre monde ne vient pas de l'extérieur de nous-mêmes, virus ou autre, mais de notre propre cœur. Ce qui doit nous inquiéter le plus, les amis, ce n'est pas le virus ou même l'ennemi, mais surtout le problème du péché. Parce que à cause de nos péchés, nous méritons tous la mort et le jugement de Dieu. Ça, c'est pire que toute autre chose. Si nous ne mettons pas toute notre confiance en Jésus-Christ pour être pardonnés de nos fautes, nous irons tous en enfer. La Bible dit ceci, dans Romains 6, verset 23, « Le salaire que verse le péché, c'est la mort. » Mais heureusement, on a besoin de la suite. « Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Si ce matin vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé et d'appartenir à Dieu, n'attendez pas. La chose la plus importante de votre vie est de venir à Jésus-Christ pour être réconcilié avec Dieu pour toujours. Nous devrions, nous chrétiens, nous rappeler que nous avons un rôle sérieux, important, solennel, éternel à jouer dans ce monde. Nous sommes sel et lumière du monde. Alors, soyons actifs pour refléter Dieu dans notre vie quotidienne, par nos paroles, en proclamant qui est Jésus-Christ. Et prions pour des vies transformées. Et puis, je dis, rien ne doit amoindrir nos prières pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens et notre zèle pour l'annonce de l'Évangile. Cinquièmement, une autre attitude, ne pas penser en mode problème, mais en mode solution, en recherchant le bien de notre pays. Être en mode problème, penser en mode problème, c'est être passif. Mais quand on veut chercher à être une solution pour les autres et pour notre société, c'est là que les choses changent. Nous devons être une solution. La Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le nôtre. » Faisons le bien par tous les moyens possibles dans la ville où Dieu nous a placés et prions pour ses habitants. La Bible nous appelle à pleurer avec ceux qui pleurent. Cela veut dire de manifester notre amour envers ceux qui souffrent, manifester notre compassion envers ceux qui souffrent encore du virus. Je pense à ceux qui ont le Covid long, qui ont perdu leur travail, qui ont des familles brisées. Nous pouvons aussi manifester notre compassion envers les personnes de notre entourage qui sont dans le deuil. Faire le bien, c'est aussi prier pour les autorités, le gouvernement. Ne faisons pas comme la majorité des personnes qui passent leur temps à critiquer le gouvernement en place. Nous avons le droit d'avoir d'autres points de vue, de garder un sens critique, mais passer notre temps à critiquer les autorités conduit inévitablement à un moment donné à la médisance. Plus on critique le gouvernement, écoutez bien, plus on critique le gouvernement, plus on va se mettre à avoir de la haine envers lui. Est-ce que Dieu cautionne cela? Non. Dieu ne cautionne pas une telle attitude. Dieu nous appelle à respecter les autorités, même si nous ne sommes pas d'accord avec tout, sans bien sûr nous compromettre quand nous les suivons dans une voie. Au lieu de passer notre temps à critiquer les autorités, la Bible nous invite à les respecter et à prier pour elles. Un beau texte, 1 Timothée 2, nous dit ceci, que l'on prie pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prier pour le gouvernement amène jusque-là. Donc, prions pour le gouvernement, afin qu'il prenne les meilleures décisions. Prions pour le nouveau gouvernement, enfin le nouveau président dans quelques semaines. Prions pour eux, pour que nous menions une vie paisible, pour le maintien de la liberté de conscience, pour la liberté de culte, qu'en France nous soyons libres d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Sixième et dernier point, ne vous inquiétez pas, j'en ai pas 10. Quelle attitude doit avoir le chrétien face au virus? Ne pas se laisser envahir par les incertitudes, mais s'appuyer sur l'espérance certaine en Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde rempli de confusion, d'incertitudes. Dieu appelle chaque chrétien à se nourrir des certitudes qui sont dans la parole de Dieu et à attendre avec joie le retour de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Hébreux 10, verset 24. « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait cette promesse, les promesses, est digne de confiance. » Il est dit dans ce texte que je viens de lire, que je viens de citer, que nous devons rester fermement attachés à l'espérance. Mais pourquoi des verbes aussi forts pour nous maintenir dans l'espérance? Certainement parce que notre réflexe est de nous laisser envahir par ce que nous voyons et non par ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire l'espérance certaine en Jésus-Christ. Ce n'est pas encore pleinement présent. On voit des personnes, des vies transformées. Mais l'espérance, la vie éternelle, c'est encore à venir. Il y a aussi le danger de tomber dans le désespoir. Un chrétien désespéré aura beaucoup de mal à avancer dans la vie. Protégeons notre cœur. Rien ne doit enlever notre joie d'appartenir à Dieu. Rien ne doit enlever notre joie d'être sauvé par Jésus-Christ. Et rien ne doit enlever notre joie d'avoir un avenir assuré pour l'éternité. Commençons et finissons nos journées en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ qui revient bientôt. J'ai dit beaucoup de choses. J'aimerais que nous retenions deux mots. Compassion, espérance. Compassion et espérance. Voilà ce que doit voir notre société en regardant l'Église. Compassion et espérance. Le chrétien face au virus doit surtout montrer sa compassion envers ceux qui souffrent et amener à l'espérance inébranlable que nous avons en Christ. Puissions-nous être la communauté la plus compatissante et aussi la plus festive du monde. Que la compassion et les réjouissances soient la réponse de nos cœurs aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie, jusque dans l'éternité. Prions. Notre Dieu, nous voulons avoir la meilleure attitude possible dans cette période Covid qui perdure et qui a changé notre société. Aide-nous à nous nourrir de ta parole, à protéger nos relations et l'unité de l'Église, à te faire confiance, à être toujours zélé pour l'annonce de l'Évangile, à rechercher le bien de notre pays et à nous appuyer sur l'espérance certaine en Jésus-Christ. Certains d'entre nous, ce matin, peut-être, ne sont pas chrétiens et ont entendu beaucoup de choses. Et Seigneur, que tu touches leur cœur pour qu'elles viennent à toi, qu'elles saisissent la beauté de ton amour et qu'elles puissent expérimenter ta grâce. Merci de toucher les cœurs ce matin. Nous prions, Seigneur, que nous soyons une communauté, la communauté la plus compatissante et la plus festive du monde, parce que nous avons le Saint-Esprit et parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix et il y revient bientôt. Amen.